16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ils avançaient en bande, ils étaient lourdement armés et ils ont fait durant des semaines la une de l'actualité.
Les village people.
Oh non, encore plus violent, Stéphane, encore plus violent.
Hein, ils étaient plutôt inoffensifs.
Ouais, vous avez des moustaches aussi, remarquez. Stéphane Bern, qui n'a peur de rien, nous raconte une bande organisée d'anarchistes prêts à tout, même à tuer, pour défendre leurs idées, la bande à Bonneau.
Règlement de compte a choisi le roi. Cela sonne peut-être moins bien que règlement de compte à OK Corral, OK. Mais tous les ingrédients d'un bon western sont pourtant rassemblés ce 27 avril 1912 dans cette petite ville du Val-de-Marne. C'est un véritable siège qu'affronte l'homme qui s'est retranché derrière les murs d'un petit garage rapidement criblé de balles par des policiers qui ont déjà tiré 400 cartouches à 10h du matin. Il y a là toute une troupe de la garde nationale, des dizaines de policiers, des gendarmes et la garde républicaine armés jusqu'aux dents, avec une mitrailleuse, dernier cri. Le chef de la sûreté, Xavier Guichard, est là. Et Louis Lépine, le préfet de police aussi, au milieu d'une foule de Pandore et d'une foule tout court, d'ailleurs. Attirés par la rumeur, des milliers de badauds et de journalistes se pressent contre les barrières mises en place à la hâte. Cela peut sembler beaucoup pour un seul homme, mais Jules Bonneau, anarchiste et bandit notoire, n'est pas n'importe qui. C'est le chef incontesté de la fameuse bande à Bonneau qui écume le pays depuis des semaines, laissant derrière elle une quantité de cadavres truffés de balles. C'est un combat à mort qui s'engage entre la police d'un côté, Bonneau et son complice Jean Dubois de l'autre. C'est aussi le point d'orgue d'une des affaires criminelles les plus célèbres de la Belle Époque. Sur le papier, l'histoire de la bande à Bonneau n'est pourtant pas la première à marier le crime et l'anarchisme. Depuis Ravachol, à la fin du XIXe siècle, certains anarchistes n'ont pas hésité à basculer dans une violence qui a atteint des sommets en 1894 avec l'assassinat du président Sadi Carnot à Lyon. Pas la première donc, pas la plus longue non plus. De l'automne 1911 au printemps 1912, la cavale de la bande à Bonneau ne dure même pas 6 mois. Alors pourquoi cette affaire a-t-elle autant marqué les esprits ? Peut-être parce qu'elle marque la fin d'une époque d'abord, avec la transformation des méthodes de la police scientifique. Si la sûreté réussit à identifier les membres de la bande, c'est grâce à ces fichiers et aux empreintes digitales laissées par Jules Bonneau et ses complices. C'est aussi visible à travers le modus operandi des criminels. Des années avant Dillinger ou Bonnie and Clyde, la bande à Bonneau est la première à utiliser systématiquement l'automobile dans ses braquages, ce qui lui permet de semer facilement des policiers qui patrouillent encore à cheval ou à vélo. L'autre nouveauté, c'est la manière dont la presse se régale à publier les courriers que lui envoient des membres de la bande comme Octave Garnier, qui n'hésite pas à provoquer la police à grands coups de communiqué. Mais si l'histoire de la bande à Bonneau a fait couler autant d'encre que de sang, c'est enfin et surtout à cause de Bonneau lui-même, truand sans scrupules certes, mais aussi bandit prêt à tout, y compris à mourir les armes à la main, plutôt que de plier devant cet ordre social qu'il abomine depuis son adolescence. Pas très grand, les moustaches droites, le nez busqué, Jules Bonneau a déjà un beau palmarès au compteur à l'hiver 1911, lorsque son nom apparaît pour la première fois dans les journaux. Mécanicien et ajusteur de métier, marié, père de famille, son profil paraît pourtant banal. Mais voilà, Jules Bonneau est allergique à l'autorité sans qu'on sache vraiment ce qui relève de la conviction anarchiste ou d'un tempérament brutal et violent. Recherché par la police lyonnaise pour des délits de droit commun, Jules Bonneau a 35 ans lorsqu'il se réfugie dans une petite communauté anarchiste de Romainville, en région parisienne. À cette date, Bonneau a déjà tué au moins une fois, qui plus est, un de ses complices, Joseph Platano. Il a beau jurer à ses nouveaux camarades qu'il n'a fait que mettre fin aux souffrances de son ami quand Platano s'est tiré une balle dans le ventre par accident, le doute demeure. Mais la solidarité militante l'emporte et Jules Bonneau intègre ce petit groupe qui vit d'expédients à coups de modestes trafics et de menus larcins. Pas du vol, non, attention, dans le milieu anarchiste, on parle plutôt de reprise individuelle. Et justement, Jules Bonneau s'y connaît en matière de reprise individuelle. Il est à la fois le plus âgé, le plus aguerri d'une bande composée d'Étienne Monnier, Eugène Dieudonné, Octave Garnier et surtout Raymond Calmin, dit Raymond la Science, dont il ne tarde pas à prendre la tête. Poussé par Bonneau, la bande de petits délinquants va prendre une autre envergure en décembre 1911. 4 jours avant Noël, le 21 décembre 1911, Bonneau, Garnier et Raymond Lascience garent une voiture, évidemment une voiture volée, devant le 148 de la rue Ordener à Paris. À 9h, la bande agresse en plein jour et à visage découvert, un garçon de recette de la Société Générale lui arrache sa sacoche et fait feu à plusieurs reprises sur son garde du corps qui s'écroule avant de foncer à travers Paris. C'est Bonneau qui conduit, le seul à savoir tenir un volant. Le butin est maigre, mais l'audace et la violence du coup de main stupéfient la police comme la presse. Le 31 décembre, à Gand, en Belgique, la bande tue un veilleur de nuit qui cherche à les empêcher de voler une voiture. Le 3 janvier 1912, un cambriolage tourne mal et ce sont deux cadavres de plus, celui d'un rentier et de sa femme de chambre. Le 27 février, en plein Paris, Bonneau percute un gardien de la paix qui veut l'empêcher de fuir après un accrochage et il y laisse la vie. Le 25 mars, le gang tue un chauffeur pour voler sa voiture avant de braquer une nouvelle fois la Société Générale, à Chantilly cette fois. C'est un carnage. On croit les voir à tous les coins de rue et sur 6 colonnes, Excelsior titre « Eux, partout, eux, toujours ». Exaspérés, les journaux s'agacent contre les forces de l'ordre. Mais dans l'ombre, la police avance pourtant à grands pas. Mi-avril 1912, Raymond Lascience et d'autres sont les premiers arrêtés, sans résistance. Le 24 avril, le commissaire Join, numéro 2 de la Sûreté, entre dans une friperie où il tombe nez à nez sur Jules Bonneau qui le tue d'une balle avant de sauter par la fenêtre. Pendant que la presse s'enflamme en relatant la mort du deuxième flic de France, la poursuite s'engage pour se finir avec le siège du garage de Choisy-le-Roi, le 27 avril. Acculé, Jules Bonneau s'enroule dans des matelas pour se protéger des tirs et des éclats. Entre deux volées de balles, le leader de la bande griffonne les quelques pages de son testament. Mais vers midi, protégé par une charrette, un agent parvient à placer une série de charges d'explosifs contre le garage. La troisième tentative est la bonne. Les murs s'effondrent et le toit prend feu. Dans la confusion et la fumée, les policiers s'engagent dans le bâtiment. Aveuglés, blessés, Jules Bonneau trouve encore la force de les accueillir à coups de feu, avant de s'écrouler, touché par 6 fois. Transporté mourant à l'Hôtel Dieu, Bonneau rend l'âme à l'aube du 28 avril. Il avait 35 ans. 3 semaines plus tard, 2 membres de la bande, encore en fuite, René Vallée et Octave Garnier, sont repérés dans un pavillon à Nogent-sur-Marne. Là encore, il faut un siège en règle pour en venir à bout, sous les regards de 40 000 Parisiens venus là comme on vient au spectacle. Un siège qui se finit là encore par la mort de 2 bandits tués à coups d'explosifs. Il ne reste plus que quelques membres du gang en vie au moment du procès de la bande, dont Raymond Lascience, condamné à mort en 1913 avec 3 complices. Devant la guillotine, c'est lui qui a le dernier mot en jetant avec une ironie bravache « C'est beau, hein, l'agonie d'un homme ». Bonneau n'est plus, sa bande non plus. Mais sa légende ne fait que commencer. Une légende qui se fait indulgente d'ailleurs à la fin des années 60, lorsque le cinéaste Philippe Fourastier confie le rôle de Jules Bonneau à Bruno Kremer et celui de Raymond Lascience à Jacques Brel.
C'est surtout une histoire d'homme, ils auraient pu autre chose qu'anarchiste. Enfin, c'est l'histoire de gars, c'est ça qui m'a bien plu. Et puis...
L'amitié ?
Oui, bon, la tendresse, enfin, il y a une grande tendresse entre... Pour moi, il y a une grande tendresse entre ces types. Ils ont été amenés à tuer, comme d'autres sont amenés à faire des cercles d'anciens du 17e bataillon de je ne sais pas quoi. Enfin, ça s'est fait comme ça, parce que ça s'est fait comme ça.
Derrière la figure romantique du révolté, Jacques Brel, et beaucoup avec lui, oublieraient presque que Bonneau et sa bande étaient d'abord et avant tout des criminels de droit commun.
C'était la bande à Bonneau.
Les bons que criaient misérables, quand s'éloignait le bruit du puissant moteur, comment rattraper les